Notre invitée politique ce soir, donc Nathalie Arthaud, porte-parole de Lutte ouvrière, candidate également à l'élection présidentielle. Merci d'être avec nous. Vous répondrez bien sûr aux questions de Gilles Bernstein, mais aussi aux questions de notre observateur citoyen qui est en direct avec nous par Skype. On le voit à l'image, Florent Marchais. Bonsoir Florent. Vous êtes étudiant franco-américain et vous avez été partisan de Bernie Sanders.
Bonsoir Nathalie Arthaud.
Bonsoir.
Depuis ce matin, les personnels soignants doivent être vaccinés, doivent présenter donc un pass sanitaire pour aller travailler. Est-ce que c'est normal ?
Non. Voilà, moi je trouve scandaleux de priver quelqu'un de son salaire, de façon générale. Hein. Je trouve ça scandaleux. Mais en plus, hein, priver quelqu'un de son salaire parce que bah, il a des doutes sur le vaccin et qu'il n'arrive pas à faire le pas, non, je trouve vraiment ça... inacceptable et je trouve que c'est injuste. Mais alors l'injustice, parce que quand même ces femmes et ces hommes qui aujourd'hui se retrouvent suspendus sans salaire encore une fois, ils ont fait le maximum.
Pour l'instant, ils ne le sont pas encore.
Ils ont fait
peut-être l'être.
Bah là, j'ai vu quelqu'un qui avait reçu son courrier, hein, qui sortait en pleurs
si vous
d'un hôpital.
Vous auriez préféré et l'obligation vaccinale ?
Je tiens à dire que c'est injuste. Mille fois injuste parce que ces femmes et ces hommes, qu'ils soient aides-soignantes, infirmières, brancardiers, qui travaillent dans les EHPAD ou aides à domicile, ils ont fait leur maximum, leur maximum. Et franchement, quand on se souvient de ce qui s'est passé lors de la première vague, quand on ne savait pas ce qu'était ce virus, qu'on avait tous peur, qu'on nous demandait hein, de nous confiner et qu'on les voyait au front, ces femmes et ces hommes risquant leur vie.
On le sait.
C'est cela qu'on est en train de sanctionner aujourd'hui. Moi, je trouve ça injuste, incroyablement injuste.
Justement, maintenant, on le sait. On sait que quand on n'est pas vacciné, c'est dangereux. Ils côtoient des malades tous les jours. Ils côtoient des malades tous les jours. Est-ce que ça ne n'autorise pas eh bien, des contraintes pour eux ? Est-ce que ça n'implique pas des contraintes pour eux ? Puisque justement, maintenant, on le sait.
Moi, je pense que celui qui est en défaut, c'est celui qui n'a pas réussi à les convaincre, qui n'a pas réussi à lever tous les doutes, qui n'a pas pris le temps et qui... Parce que vous savez...
Donc, il n'y a pas de responsabilité
en réalité,
individuelle.
Ces femmes et ces hommes, ils sont... brinque-ballée d'un côté, de l'autre. Ils sont tous les jours confrontés à la pénurie de matériel, de soignants. Si, ça a à voir. Ça a à voir, parce que ça veut dire que leur confiance, y compris dans la parole hein, des dirigeants, la confiance dans l'institution, bah bien sûr qu'elle s'est effritée. Parce qu'ils sont bien placés hein, pour savoir, justement, que tout n'est pas fait pour les patients, en réalité. Donc, le rejet, la méfiance, eh bien, tout ça, ça existe. Ça existe et
alors je n'arrive pas à comprendre en quoi l'impéritie, le dénuement de l'hôpital public, admettons, justifié.
Mais c'est pas admettons, c'est
d'accord.
On l'a vu dans toute la crise.
D'accord, je ne
Écoutez,
dis...
c'est quand même pas à cause c'est des soignants pour...
non, mais...
que les opérations ont été déprogrammées à chaque fois qu'il y a eu les vagues épidémiques.
En quoi le dénuement de l'hôpital public que vous constatez autorise-t-il, enfin a-t-il un rapport avec la vaccination ?
Mais simplement, c'est la méfiance qui est installée. C'est c'est des femmes et des hommes qui donnent plus le crédit.
Vous dites qu'on n'a pas. Alors vous dites qu'on n'a pas. Non, mais vous dites qu'on n'a pas réussi à les convaincre de se faire vacciner.
Je pense que l'État.
Pour les convaincre, faut leur dire quoi ?
Ben, faut les écouter. Il faut prendre le temps. Il faut leur demander ce qui les retient. De quoi ont-ils peur ? Mais ça, vous savez, en fait, depuis le début. Et ben ça, c'est pas fait. Et je peux vous dire que dans tous les services...
Mais donc vous incitez les salariés à se faire vacciner ?
Mais moi, je suis vaccinée et je pense que la vaccination, c'est un immense progrès. Et je peux dire d'ailleurs que j'ai la rage quand je vois que justement, on a finalement sali hein, ce principe de la vaccination. On l'a sali parce que on a distillé le doute. Pourquoi ? Ben parce qu'il y a eu tous ces scandales sanitaires, parce qu'il y a eu le Mediator, parce qu'on voit que ces trusts pharmaceutiques, certes, ils vendent un vaccin, mais ils cherchent le profit et que ils y vont gaiement. Allez, que je t'augmente la dose, que je te la fasse payer plus cher.
Est-ce que vous, Alexandra, vous avez demandé, est-ce que vous incitez, est-ce que vous, Nathalie Arthaud, vous dites aux soignants, faites-vous vacciner ?
Je me suis fait vacciner dès que
j'ai eu. Mais c'est pas la question.
Bien sûr. Bon, mais parce que j'ai pas terminé, donc j'ai même pas entendu votre question. Mais voilà, moi je j'ai perdu le fil. Mais moi je pense que c'est un seul et même ensemble. Quand on se retrouve avec une hiérarchie qui est incapable de donner des matériels de protection, des gants, les blouses.
Mais à partir du moment où là justement il y a un outil de protection et c'est le vaccin.
Quel est le sens de le refuser?
Mais ça, il faut leur demander. Ils ont, quand on vous en recevez sur votre plateau, vous les écoutez, il y en a qui ont peur. Ça peut être de l'ordre de l'irrationnel, ça peut être de l'ordre de la méfiance.
Mais ils ont le droit d'avoir peur, etc. Mais ont-ils le droit pour autant de mettre des patients en danger?
Non, ce ne sont pas eux qui mettent les patients en danger. Ceux qui mettent aujourd'hui les patients en danger, c'est ceux qui ont supprimé des lits dans les hôpitaux depuis 20 ans. C'est ceux qui n'ouvrent pas là les places pour former des infirmières. C'est ceux qui, c'est le gouvernement qui n'ouvre pas des places pour former des médecins et qui demain
en fait,
confronté.
Ça n'a pas de rapport.
J'ai du mal à voir le rapport.
Vous avez raison. L'un n'empêche pas l'autre. Mais d'un côté, il y a des femmes et des hommes qui font leur maximum, et de l'autre côté, il y a des dirigeants. Des dirigeants qui doivent organiser une politique de santé publique. Des dirigeants qui doivent mettre les moyens, qui eux savent, qui eux ne sont pas gérés par des craintes ou des peurs, hein, qui ont accès, effectivement. Donc, ils ont bien plus de responsabilités. Et moi, ce que je vois aujourd'hui, c'est que la gestion comptable, la gestion, les économies dans les hôpitaux, ça continue à tous les étages. Je vois, si vous voulez, ils continuent d'externaliser des services de ménage dans les hôpitaux, avec le danger que cela veut dire. Alors vous comprenez,
je vois toujours pas le rapport avec la vaccination.
Si, ils sont bien placés pour savoir que non, le gouvernement ne fait pas tout ce qu'il faudrait pour
soigner
bien
le
la
gouvernement,
population.
D'accord.
Donc il y a méfiance. Et ben
le
voilà,
gouvernement,
malheureusement,
le gouvernement
l'état
ne fait
des
pas
lieux.
Vous, Nathalie Arthaud, personnage public, responsable politique, est-ce que vous appelez les soignants à se faire vacciner?
Non, mais c'est pas mon rôle. C'est pas mon rôle. Moi, j'appelle les soignants au-delà.
Vous dites, il faut convaincre.
Mais
est-ce que vous leur demandez d'aller se faire vacciner?
Attendez, j'ai aucune autorité sanitaire. Enfin, j'ai aucune autorité. Je suis pas médecin.
Mais vous dites que c'est l'État qui a pas joué son rôle.
Mais
vous
bien
pas
sûr.
Vous dites pas
que c'est l'État avec son armada.
Mais vous,
c'est de sa responsabilité de l'organiser.
Vous avez dit que vous avez confiance dans la vaccination. Hello a toujours été une organisation scientifique. Vous faites confiance à la science. Il y a même une maison. Oui. Je crois qu'il y a une maison de la science à la fête de lutte ouvrière. Aujourd'hui, l'immense consensus des scientifiques disent il faut se vacciner. Donc ma question est claire. Est-ce que vous, qui faites confiance à la science, vous demandez aux soignants de se faire vacciner?
Je fais confiance à la science et je pense qu'il faut se faire vacciner. Voilà, je pense qu'il faut se faire vacciner. Voilà. Maintenant, il est hors de question de sanctionner quelqu'un qui n'arrive pas à faire le pas. Je trouve ça abject. Voilà, on se demande là s'ils ont des enfants, comment ils vont vivre sans leur salaire, comment ils vont faire en j'ai ce sentiment que voilà, dans la société, voilà, il y a une espèce de rouleau compresseur. Hein. Il faut obéir aux commandements. Et puis finalement, ceux qui dirigent, hein, ceux qui dominent, hein, ils ne s'intéressent pas finalement à ce qu'on ressent. Hein, ça ne les intéresse pas parce que de toute façon, ils ont le bâton, ils ont la trique et la preuve, ils peuvent s'en servir. Donc voilà, moi c'est toute cette société-là que je recherche.
Le patient à l'hôpital dont le médecin n'est pas vacciné, lui aussi, il ressent quelque chose.
Vous savez,
et lui aussi, il peut se dire que c'est pas terrible.
Justement, c'est toutes ces séquences-là que je trouve révoltantes. Moi, je vais vous raconter une anecdote. Lors de la deuxième vague, il y avait le vaccin était là. J'ai quelqu'un de ma famille qui a été hospitalisé pour une fracture, bénin a priori, mais cette personne, 74 ans, avec des facteurs de comorbidité, elle est rentrée à l'hôpital le jour où elle voulait se faire vacciner. Elle y est restée 7 semaines. Ils n'ont pas été capables de la vacciner pendant 7 semaines. Pourquoi? Parce que sa vaccine n'est pas à l'hôpital. Sa vaccine n'est pas à l'hôpital. Tous les jours, j'ai eu peur. J'ai eu peur qu'elle prenne le Covid. J'ai eu peur que ça se passe mal. Donc, vous voyez, moi, j'ai la rage par rapport à ça, par rapport à ceux qui doivent organiser.
Mais on a l'impression
que
vous voulez vous venger de cette gestion en disant, finalement, ne pas se faire vacciner.
Par contre, le gouvernement, aujourd'hui, il se venge sur les soignants. Non seulement il se venge, mais il fait une diversion. Une diversion pour qu'on ne lui demande pas de compte. Mais c'est toujours pareil dans cette société. Il faut que ce soit les travailleurs, les petites gens, hein, ceux qui font au mieux.
Non, mais là, c'est pas c'est tous les soignants, le professeur agrégé, pareil. Hein.
Sur le banc des accusés.
Non,
et
mais
c'est
là,
ce
c'est
que
tous
je
les
ne
soignants, quel que soit leur niveau.
C'est ce que je peux pas supporter, bon, c'est que ce soit eux qui soient sur le banc des accusés. Et vous voyez, je fais une petite parenthèse. Mais Agnès Buzyn est donc mise en examen. Je ne sais pas combien de temps ça va prendre, combien de mois il faudra. Je ne sais même pas si au final elle sera sanctionnée d'une quelconque façon. En tout cas, j'ai entendu énormément de gens s'indigner en disant c'est une honte. Si elle a manqué à ses responsabilités, c'était sans le vouloir, etc., etc. On ne devrait pas lui demander.
Beaucoup ont dit que c'est une responsabilité. Etc. Beaucoup se sont demandé si c'était pas une responsabilité politique plus qu'une responsabilité juridique.
Voilà, mais vous voyez, voilà. Alors là, bon, voilà, et puis on va discourir comme ça, et puis ça va courir pendant des mois. Est-ce qu'elle va être sanctionnée? Je n'en sais rien. Mais moi, ce que j'observe, c'est que les soignants, en l'occurrence, c'est le couperet qui tombe. Là, aujourd'hui, il y a une date, c'est comme ça. Et là, il n'y a pas de procès. Alors, vous voyez, c'est deux poids, deux mesures. Et c'est ça aussi, je pense, qui crée ce rejet, cette méfiance qui s'est installée. C'est ça. C'est de voir cette société qui fonctionne à deux vitesses, tout le temps.
Compris. Il y a en ce moment le procès des attentats du 13 novembre et Salah Abdeslam a parlé aujourd'hui, on ne s'y attendait pas, mais il a parlé. Il a blâmé, je le cite, les avions français qui ont bombardé l'État islamique, les hommes, les femmes, les enfants. Est-ce que je caricature en disant que c'est à peu près ce que vous dites?
Ah oui, oui, vous caricaturez beaucoup.
Ben non, vous dénoncez les États capitalistes qui sont allés intervenir sur zone. J'ai un tweet si vous voulez.
Ben, bien sûr. Mais vous savez, depuis toujours, lutte ouvrière, et d'ailleurs pas que lutte ouvrière.
Vous l'avez dit, acte lâche de fou, d'accord, mais produit du chaos dans lequel le Proche-Orient a été jeté par les grandes puissances. Oui. Voilà, donc c'est
depuis
en gros...
Depuis toujours, nous dénonçons la politique impérialiste des grandes puissances. La grande puissance, c'est bien sûr les États-Unis, mais derrière, il y a des puissances de seconde zone, dont la France, qui effectivement imposent leur domination sur le monde, continuent de piller les richesses, continuent de peser pour que ce soit le dénuement, pour que les États soient... y compris pour s'appuyer sur des clics corrompus, et c'est l'ensemble qui crée le terreau
donc,
pour
vous diriez
le terrorisme.
Que les terroristes ont mal répondu à une vraie question?
Je pense que les attentats terroristes sont abjects, sont inqualifiables, sont injustifiables. Je pense que j'ai rien de commun avec tous ces groupes-là, qui d'Al-Qaïda à Daesh, en passant par je ne sais quelle bande terroriste, ne visent qu'une chose. C'est imposer leur main de fer implacable sur leur population, imposer leur dictature, en fait, et la barbarie, là où ils domineront. J'ai rien de commun avec ces gens-là, rien de commun. Mais ce que je pense, c'est que ces gens-là, ils sont le fruit d'une situation de chaos, de dénuement, où justement, c'est des guerres ininterrompues, où la population est prise en otage
mais
des
notre
bandes
faute,
armées et d'autres bandes armées. Pardon ?
Mais c'est un peu de notre faute.
C'est de la faute des puissances impérialistes.
Donc la France, c'est de la faute, donc la France a une part de...
Mais vous ne croyez pas que les puissances...
La France a une part de responsabilité dans ces attentats.
Bien sûr qu'elle a une part de responsabilité dans la barbarie du monde, et cette barbarie qui rejaillit et qui nous revient dans la figure, bien sûr. Et vous savez, le sous-développement, c'est le fruit de quoi ? C'est pas le fruit de continents entiers qui ne savent pas s'organiser. C'est le fruit de la colonisation, c'est le fruit de la politique impérialiste, c'est le fruit du pillage et qui continue et qui voilà. Et c'est sur ce terreau-là que les dictatures s'installent, souvent d'ailleurs avec l'aval des grandes puissances. Moi, je pense quand même que, souvenez-vous, tous les gouvernements français successifs ont toujours soutenu des dictateurs, de Bokassa jusqu'à Idriss Déby, au Tchad. C'était
mais là, on ne parle pas des dictateurs, on parle des terroristes.
Mais ce sont ces dictateurs-là qui, précisément, font naître des oppositions, des gens qui s'arment et des gens qui ensuite utilisent le terrorisme. C'est un enchaînement, tout ça. Ça ne naît pas de nulle part. C'est le fruit, bien sûr, de toute cette situation dans laquelle, je le redis, je l'assume et je signe dès demain. Oui, les grandes puissances impérialistes ont une responsabilité accablante.
Dont la France.
Et on pourrait parler de l'Afghanistan. Bien sûr, parce que vous avez vu avec quel succès, n'est-ce pas, les 20 années de guerre à quel succès sont parvenus les Américains après 20 années de guerre, 200 000 morts et des milliards et des milliards dépensés.
Mais pendant 20 ans, des filles qui sont allées à l'école et qui n'y allaient pas avant et qui n'iront certainement pas après.
Même pas dans toutes les régions, hein, et ils ont finalement, pourquoi les talibans ont pu s'installer? Parce que ils y sont allés avec leurs armes, en dépensant des milliards et des milliards, ah oui, dans du matériel militaire très sophistiqué, hein, mais sans jamais s'intéresser aux besoins de la population, construire des infrastructures, installer des routes, installer des dispensaires jusque au fin fond du pays. Mais non, c'est même pas jusqu'au fin fond du pays, mais, non, ça c'est pas leur préoccupation. Et la France, elle est pas aujourd'hui au Sahel. Hein, pour permettre aux populations du Sahel de sortir de la misère et du dénuement.
Vous, présidente de la République, vous supprimez l'opération Barkhane tout de suite?
Oui, bien sûr. Les troupes françaises quittent l'Afrique. Bien sûr, immédiatement.
Compris. On va parler de sécurité. Hier, le président de la République a dévoilé ses propositions pour la sécurité, justement, dont celle-ci.
Augmenter significativement, c'est-à-dire doubler sous 10 ans, la présence des policiers et gendarmes sur la voie publique.
Est-ce qu'il faut, comme le demande le président de la République, plus de policiers dans la rue, selon vous?
Je pense qu'en effet, ça pourrait rassurer des gens qui ont peur dans certains quartiers, ça c'est sûr, qui ne voient pas, c'est sûr. Mais en fait, ça réglerait rien. Moi, je ne pense pas que plus de policiers, plus de matraques ou plus de prisons puissent résoudre le problème auquel on est confronté aujourd'hui. Parce que s'il y a de la délinquance, s'il y a une décomposition, un pourrissement dans les quartiers populaires, c'est quand même bien le fruit d'une situation sociale.
Uniquement.
Oui, bien sûr. Uniquement. Essentiellement. C'est le désœuvrement d'une partie de la jeunesse. C'est une partie de la jeunesse qui ne se voit pas d'avenir, qui est abandonnée.
Il n'y a que des causes sociales à la délinquance.
Essentiellement, vous savez, y compris le ministre de l'Intérieur l'a en partie reconnu quand il a expliqué que faire un leguet pour des dealers, c'était tellement plus rentable que
d'aller
travailler. Et que parfois l'enfant gagnait plus que son père. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on est dans une société où finalement l'exploitation elle est impitoyable, où il y a ce chômage, où il y a cet argent à un pôle et l'autre côté où finalement toute une jeunesse se dit moi j'ai pas ma place dans la société. Alors tout ça, ça conduit, oui, à des comportements individualistes, asociaux, à tous ces trafics qui peuvent vraiment pourrir la vie d'une cité, ça c'est évident, qui peuvent vraiment pourrir la vie d'une cité. Mais vous savez, d'élection en élection, de gouvernement en gouvernement, ils en rajoutent, et ça résout pas le problème. Ça résout pas le problème parce qu'encore une fois, un problème qui a des causes sociales, il faut l'affronter sur le terrain social. C'est-à-dire le problème du chômage et de la misère.
Justement, une question sociale. Anne Hidalgo propose le doublement du salaire des profs. Est-ce que vos ennemis socialistes progressent?
D'abord, moi, je trouve que ce serait tout à fait légitime. Un doublement des salaires des professeurs. D'ailleurs, quand on fait les comparaisons avec les pays voisins, effectivement, on voit que les enseignants en France sont payés 2 fois moins qu'en Allemagne, par exemple. Voilà. Bon, mais ça, ce sont les chiffres. Donc, je trouverais ça légitime. Et c'est vrai que c'est un choix de société. Dans quelle société veut-on vivre? Dans une société où les actionnaires sont arrosés de dividendes et où quelques milliardaires accumulent comme ça des fortunes et des fortunes, ou une société qui effectivement fasse de la place à la jeunesse, s'occupe de la former, de l'éduquer et donc investit dans l'éducation. Mais moi, j'élargirais le problème à tous ceux qui sont en fait essentiels et indispensables à la société, parce que d'abord je suis prof, je voudrais pas avoir donner le sentiment que je parle pour moi ou que je tire la couverture à moi, mais je pense que tous ceux qui sont indispensables dans cette société, et il suffit de voir justement les soignants, les aides à domicile, tout ce personnel de santé, les femmes et les hommes qui travaillent dans les EHPAD, regardez comment ils sont précieux, le travail indispensable qu'ils font. Mais les essentiels, on les a vus pendant le confinement, c'est aussi les éboueurs. Je pense qu'à eux aussi, il faudrait augmenter leur salaire.
Les policiers.
Bien sûr, considérablement. Et les policiers, ce que je vois, c'est que on leur demande vraiment de faire un travail difficile, hein, mais le gouvernement se donne même pas les moyens, effectivement, ni de leur donner hein, de quoi, en fait, de quoi travailler. Bon, alors voilà, moi je pense que tous ces salaires-là, bien sûr qu'il faudrait les augmenter, mais à la différence de Madame Hidalgo, je ne pense pas que ça va tomber d'en haut. Voilà, et je dois avouer même que hein, tout ça balancé comme ça, comme une promesse électorale, je trouve que c'est assez
démago.
Bon, c'est complètement démago, ça c'est une évidence. Mais en revanche, je suis convaincue qu'il y a les moyens. On a les moyens. Il y a l'argent pour les payer, mais ces augmentations de salaire, il va falloir aller les arracher. Tout ça, ça va dépendre des luttes collectives. C'est une question de rapport de force. Et moi, je pense que oui, il faut aller prendre l'argent là où il est pour augmenter de façon considérable les salaires et permettre qu'on vive dignement en travaillant. Mais c'est une question de lutte.
Et est-ce qu'on a l'argent pour nationaliser les autoroutes? Ça, c'est une proposition de Marine Le Pen. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée?
Ah, mais moi, je pense qu'il n'y a pas besoin d'argent pour nationaliser les autoroutes.
Alors, expliquez-nous.
Ah ben moi, je pense que on peut les nationaliser sans achat, sans rachat. On exproprie, effectivement. Vous savez, en réalité, cette privatisation des autoroutes, c'est une escroquerie depuis le début. Moi, je trouve d'ailleurs vraiment toujours scandaleux de voir que c'est l'État qui a déployé les moyens, qui a fait les investissements, qui s'est endetté pour construire ces autoroutes. Une fois qu'elles commençaient à être rentables, on les donne au privé pour qu'il encaisse les bénéfices. Enfin bon, c'est et puis effectivement, ils ont fait leur beurre. Ils ont fait plus que leur beurre. C'était la
donc
poule,
là-dessus, vous êtes d'accord avec Marine Le Pen.
La poule aux œufs d'or. La Cour des comptes l'a dit mille fois. Donc je suis d'accord pour. Enfin, je pense qu'il faut qu'elle soit nationalisée sans rachat, sans qu'on débourse un centime. L'expropriation, il faut que ça revienne effectivement. Mais vous savez, ça me fait penser. Enfin, il faut que ça revienne donc à l'État et qu'on arrête de payer hein, notre dîme finalement à chaque fois qu'on passe au péage à Vinci ou à Eiffage ou à je ne sais qui. Et ça me rappelle, vous savez, ce qui se passe sur les vaccins. Parce que les vaccins, ils ont été trouvés effectivement très vite avec une mobilisation des chercheurs, mais aussi des centres publics de recherche.
Et du
aussi,
privé, donc ça marche le privé.
Et avec l'argent du public, et avec oh combien d'argent du public, parce qu'en réalité, et pour faire les recherches, et pour construire les infrastructures pour les fabriquer ces vaccins, ils n'avaient pas l'argent, ils voulaient pas mettre l'argent les trusts privés. Il a fallu que ce soit les États qui s'engagent. Bah, ils ont mis ça sur la table. Mais moi, ce qui me choque, c'est que ces vaccins, en réalité, ils ont été trouvés et réalisés avec des moyens publics. Et là, aujourd'hui,
investissement
ils font
public,
la fortune.
Bénéfice privé.
Mais bien sûr.
Okay.
Et
au
combien
avancer.
Et au combien. Et ben ça, je trouve écœurant. Et moi, ce que je revendiquerais aussi par rapport à cette histoire de vaccin, c'est qu'on fasse le contrôle, qu'on fasse la transparence totale sur quel est le coût de ce vaccin, combien ils se mettent dans la poche. Parce que je trouve pas normal qu'ils profitent du malheur hein, du monde pour s'enrichir. Et demain, ils nous le feront payer tout ça.
On parle de votre candidature à la présidentielle.
Avec plaisir.
C'est la troisième. Vous avez fait 0,56 en 2012, 0,64 en 2017. Qu'est-ce que vous espérez cette fois?
Oui, ça monte.
Ça monte. J'ai pas voulu vous le dire parce que je me suis dit, elle va trouver que c'est insolent, donc je l'ai fait sobre. Mais voilà, ça monte. Vous avez progressé de 0,10. Exactement.
Voilà. Bah écoutez, bien sûr, je serai encore là et je serai là pour refaire ce constat. Toujours et encore, que par exemple, vous voyez, on sort là de 2 ans de pandémie, d'une crise sanitaire donc d'ampleur qui s'est greffée, hein, qui s'est ajoutée à une crise économique et sociale qui l'a amplifiée. On sort de cela avec les milliardaires qui ont vu leur fortune augmenter de 40%, car elle est quasiment doublée. Les cours boursiers y crèvent aujourd'hui les plafonds. On a des grands groupes du CAC 40 qui explosent leurs profits. Là, Stellantis, ils vont être sur du 6 milliards hein, sur un semestre. Hein, sur un semestre, 6 milliards de profits.
Stellantis, c'est l'ancien PSA.
Oui, PSA qui a fusionné donc avec Fiat. Bon, ils vont être sur du 6 milliards. On a LVMH, on a un 4 milliards, Total Energy, 4 milliards, etc., etc. Hein. Et puis de l'autre côté, eh bien, on a des intérimaires qui sont renvoyés, qui se retrouvent en ayant perdu leur gagne-pain. On a des femmes et des hommes qui, les ouvriers des fonderies, là, qui ferment toutes les unes après les autres, qui vivent dans l'angoisse du lendemain. On a des gens qui n'en peuvent plus parce que les cadences, elles sont devenues complètement folles, les rythmes de travail sont devenus fous, les salaires sont bloqués. Hein, il y a eu un appauvrissement d'une grande partie du monde du travail. Voilà la réalité, le bilan de ces 2 années. Alors, moi, ce que j'ai à dire dans cette campagne, hein, c'est que si les travailleurs et les travailleuses ne veulent pas être les éternels sacrifiés dans cette société, hein, s'ils ne veulent pas qu'il y ait cet enrichissement incroyable, exorbitant sur leur dos, eh ben il faut qu'ils se battent. Il faut qu'ils renouent avec les luttes collectives. Il faut imposer un rapport de force. Et moi, j'insisterai pour dire que les travailleurs, ils n'ont pas besoin de promesses électorales. Non, ils ont besoin d'un plan de combat. Ils ont besoin de renouer avec cette conscience, eh ben qu'on n'aura rien, rien. Si on renoue pas avec les grèves, avec les manifestations, avec les mobilisations.
Nathalie Arthaud, je vous l'avais présenté au début de cette émission, notre observateur citoyen Florent Marchais. Bonsoir Florent, vous êtes étudiant franco-américain, vous vivez à Paris et vous avez milité pendant la campagne présidentielle américaine pour Bernie Sanders. Quand vous viviez à Austin, au Texas à l'époque, vous êtes donc de gauche. Vous allez voter à l'élection présidentielle en 2022. Quelles questions vous voulez poser à Nathalie Arthaud ce soir ?
Déjà, j'ai énormément de respect pour des mouvements et des gens qui ont des principes très forts. Et j'ai encore plus de respect pour ces principes quand ils sont véritablement appliqués et quand on a le courage et la confiance de vraiment prendre le pouvoir sérieusement. Et j'ai l'impression que déjà, vous avez les principes, Madame Arthaud, et je vous salue parce que à gauche, on est attaqué par les médias, par l'extrême droite, par Macron et tous ces réformes néolibérales. Et j'ai énormément de respect pour des gens qui ont des principes. Après, ce que je demanderais, c'est comment va-t-on appliquer ces principes directement ? Quelle est la c'est quoi la stratégie pour rassembler des millions de gens autour d'un programme sérieux qui peut vraiment convaincre, qui peut vraiment mettre en avant les idées de gauche ?
Merci beaucoup Florent. Nathalie Arthaud va vous répondre.
Moi, mon objectif, c'est de rassembler les travailleurs autour d'un programme de lutte, encore une fois. D'un programme de lutte, parce que tout est une question de rapport de force. On n'obtiendra rien, mais même pas la moindre augmentation de salaire. On n'obtiendra pas la moindre embauche sans se battre. Et je pense que aujourd'hui, les salariés qui vivent ces plans de suppression d'emplois qui aggravent
il pointe une certaine inefficacité de votre lutte. Voilà, vous avez fait 0,6, 0,7, là où Bernie Sanders, il a pas gagné les primaires, Bernie Sanders, mais enfin, il a redonné des lettres de noblesse à une certaine gauche radicale aux États-Unis. Il a influencé le programme de Joe Biden. Je crois que ce que vous demande Florent, c'est, voilà, qu'est-ce que vous pouvez faire, vous, pour améliorer le sort des gens et pour redonner des lettres de noblesse à la gauche?
Mais précisément, je pense que, y compris Biden au pouvoir, il a fait un certain nombre de promesses aux travailleurs qu'il ne tient pas.
Mais il en a tenu un certain
nombre. Je pense à l'augmentation du salaire minimum, par exemple. Alors, il a fait d'autant plus facilement cette promesse qu'il devait savoir que le Congrès allait la bloquer.
Mais enfin, il a fait des chèques pour les gens pauvres.
Mais c'était une promesse en l'air. Alors, moi, je pense que...
Toutes n'ont pas été tenues, mais certaines l'ont été.
Moi, je pense qu'il faut effectivement, si on veut être constructif, eh ben, il faut dire la vérité. Et la vérité, c'est qu'on ne changera pas notre sort sans se battre. Alors oui, c'est pas facile. C'est pas facile.
Est-ce que vous changerez le sort des gens en 0,7%?
Mais il n'y a pas d'autre solution.
Mais même si vous faisiez 1,5%, que vous doubliez votre score, à quoi ça sert?
Non, mais vous avez raison. Vous avez raison. Justement, c'est ce que j'explique. Ce n'est pas par les urnes. Ce n'est pas par.
C'est par la résolution. C'est par
que ce n'est pas par ces élections que les travailleurs pourront changer leur sort et pourront commencer à inverser le rapport de force. C'est au travers de leur propre combat. En fait, ils ont en eux la force de changer les choses.
Pourquoi vous présentez ?
Mais parce que je défends une perspective politique exactement comme tous les autres qui se présentent. Parce que vous pouvez insister sur mon faible score, mais vous savez.
Non. Je vous pose la question de l'utilité.
Mais vous savez. Je ne suis absolument pas la seule à savoir que je ne serai pas élue. Mmh. Il y en a beaucoup d'autres des candidats qui partent, qui se positionnent dans cette campagne, en sachant pertinemment qu'ils ne seront pas élus. Et là, personne leur demande, mais enfin, pourquoi vous vous présentez, hein? Eh bien, moi, je mène le combat. Je mène le combat politique. Vous savez, ce que je vous dis là, sur le plateau ce soir, Je milite en permanence dessus. Moi, je sors pas un programme de mon chapeau, des idées comme ça pour appâter les lecteurs. Je continue mon combat politique. Et justement, je crois pas d'ailleurs être si décalé que ça, vous savez, avec justement le monde du travail, les classes populaires. Parce que si les élections changeaient le sort des travailleurs, ça se saurait. Ça se saurait. Et je pense qu'il y aurait beaucoup moins d'abstention et de gens qui sont écœurés aujourd'hui par la politique et qui s'en détournent.
Bah, l'élection fait les cinquièmes semaines de congés payés, la retraite
non,
à 60 ans.
Non, ce ne sont pas les élections qui ont... Ça a été la pression des travailleurs, ça a été leur présence, ça a été la pression...
l'application du programme commun de la gauche de François Mitterrand.
Sous la pression, effectivement, du monde du travail. Et c'est exactement comme quand on nous parle des congés payés, où on nous explique, ah mais ça c'est Léon Blum et le gouvernement de Léon Blum. Mais ça a été une grève générale.
Ça oui, hein, bon, Mitterrand non.
Voilà, d'un pays entier. Et c'est ça, et c'est au travers de ces moments-là.
Alors, le changement constructif ne se fera pas par les urnes, on l'a compris.
SpaceX, on va les voir, on a vu les passagers de ce vol spatial, les quatre passagers de ce vol spatial, voilà, partir vers leur vaisseau. Ça vous fait rêver, ces images ?
Moi, je trouve que ça en dit vraiment long sur la société dans laquelle on vit. Parce que pendant qu'un certain nombre, là, vont faire du tourisme spatial, il y a des femmes et des hommes qui sont expulsés de leur logement. Voilà, ça en dit long sur...
C'est de l'argent jeté par les fenêtres.
Je pense que la société, est vraiment, elle marche sur la tête. Écoutez, moi, ce que ça montre, c'est qu'on a des possibilités incroyables dans cette société. Et moi, je suis fondamentalement optimiste, justement. Tous ces moyens qu'on a, on a de quoi nourrir toute la planète, en fait. On a de quoi permettre à chacun de subvenir à ses besoins élémentaires. On sait le faire. On sait le faire. On sait le faire. On sait. On est capable aujourd'hui.
On sait que c'est possible, mais on sait peut-être pas le faire.
On sait que c'est possible, mais c'est notre organisation sociale, c'est notre ordre social. C'est justement le capitalisme qui est incapable de le faire, parce que ce capitalisme, il est fondé sur l'exploitation, et que pour une minorité s'enrichisse, il faut appauvrir le reste de l'humanité.
Donc vous avez pas envie d'être
le capitalisme. Non, j'ai pas envie d'être. Non, moi, j'ai envie d'être celle qui mène ce combat-là. Et c'est un combat contre le capitalisme. C'est aussi pour ça que les élections, vous savez, ça peut pas changer la société capitaliste. Et pour l'écologie, contre les guerres, il faudra renverser le capitalisme. Sinon, on s'en sortira pas.
Merci beaucoup Nathalie Arthaud. Alors les élections, ça sert peut-être pas à grand-chose, mais vous lancez votre campagne demain. Je le dis. Merci.
Des perspectives pour les travailleurs, très important.
Bonne campagne.